chrono.
C'est parti.
Je dois bien avouer que ces histoires de 21 minutes mettent un peu la pression quand même. Ouais. On n'a pas l'habitude d'être chronométré, comme ça on a toujours une marge normalement, en plus ou en moins. Alors je vais me présenter, je suis Virginie Ségerin, je suis conseillère conjugale et familiale. Donc je travaille pour une association qui s'appelle l'Association française des centres de consultation conjugale. D'abord, peut-être pour vous situer un peu mon parcours, j'ai fait des études de psycho, j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique à Saint-Jean, auprès plutôt des psychotiques. J'ai fait des groupes de parole, des ateliers sculpture, des entretiens, des suivis, des diagnostics, un peu le travail de l'hôpital psy. J'ai repris mes études après à Paris, en conseil conjugal et familial. Voilà, j'ai obtenu mon titre. Depuis, je travaille donc pour la FCCC. Donc en gros, c'est quoi mon boulot ? J'ai un peu de grandes missions. Ma mission première, c'est de recevoir des gens en entretien. Donc je reçois sur Angers, à la toute nouvelle maison des familles, toute nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, si vous la connaissez déjà, qui s'appelle la Parentosphère, qui est près de la CAF et de la Sécu, près de la rue Louis Guin, juste à côté de la maison Chouette, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un endroit assez sympa qui regroupe plein d'associations, on travaille autour de la parentalité. Voilà, je travaille donc à Angers, à Saint-Georges-sur-Loire, à Beaupro et à Cholet. Donc en fait, je fais toute cette partie-là un peu du département. Donc je reçois des personnes seules, des couples, des familles, qui viennent me voir pour leurs problèmes. Hein, on ne vient pas me voir parce qu'on va bien. C'est assez classique. Pour tous leurs problèmes de couple, leurs problèmes éducatifs, leurs problèmes de relation avec leurs enfants, ou même les enfants, leurs problèmes à eux. Des personnes seules qui peuvent douter, voilà, est-ce que je pars, est-ce que je reste. Des parents qui se questionnent sur l'éducation, ou qui sont perdus, des parents seuls, ou en couple. Voilà, c'est un peu tout ça. L'autre partie, c'est tout ce qui est animation de groupe, on va dire. Donc j'interviens dans les collèges et les MFR sur l'éducation à la vie, à la sexualité. Voilà, puisque c'est une mission des conseillères conjugales, plus personne ne le sait, mais c'est notre mission. Voilà, donc bon, c'est une partie que j'aime bien, aller faire toutes ces découvertes-là, beaucoup avec les 4e, 3e, puisque c'est leur programme. Je donne des conférences comme ce soir, des formations aussi auprès des professionnels, je fais de l'analyse de la pratique d'autres conseillères conjugales. Et puis j'ai deux cafés parents, deux groupes de parole de parents. Un à Saint-Georges pour des parents de jeunes enfants, à peu près des âges par là, et un autre à Beaupro pour des parents d'ados. Voilà, donc on se réunit le samedi matin autour d'un café, de gâteau, et puis on discute sur des thèmes ou sur ce qui est un peu chaud à ce moment-là. Voilà, le parent qui arrive et qui a eu un problème avec son gamin, peu importe. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des matinées assez chouettes. Voilà, voilà mon travail. Alors, mon association travaille en partenariat avec la CAF, en fait, et aussi la DDCS, anciennement DAS, qui nous subventionne. Voilà, je le dis parce que c'est important de dire que l'État nous soutient là-dedans. En tout, on a 8 lieux dans le Maine-et-Loire. Hein, on est 4 conseillères conjugales. Alors, vous comprenez bien que forcément, quand Nicolas m'a contacté, il joue. Il est parti à jouer. Non, vous pouvez continuer, je vous en prie. Moi, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'en vois beaucoup des parents solos quand même. Alors, je les vois, c'est assez intéressant parce que je les vois à différents stades. Je les vois quand ils ne sont pas encore, qui vont peut-être ou pas se séparer, en tout cas qui se posent la question et peut-être un peu leur angoisse. Quand ils le sont déjà, quand ils ne le sont plus parce qu'ils ont recomposé une famille. Ou même, je vois des enfants devenus adultes, qui étaient dans des familles monoparentales, comme on dit. Hein. Donc voilà, moi je trouve ça sympa, parce que du coup, c'est un peu... voilà, ce que je vais vous dire ce soir, c'est un peu le mélange de tout ça. Ce que je peux entendre, ce que les gens me rapportent, c'est pas forcément voilà, une vision assez figée. Et je crois que c'est important, parce qu'il y a une vraie évolution, et il y a différentes choses là-dedans. Hein. Et puis il y avait pour une autre raison un peu plus, peut-être un peu plus, comme on pourrait dire, militant, même si c'est peut-être pas le terme, mais Vous voyez bien qu'on est un peu, qu'on vit un peu une, même si ça évolue, mais un peu de façon négative. Les familles monoparentales, on l'entend tout le temps. Moi, je me suis amusée, je tape toujours dans Google, avant une intervention, je tape toujours le titre de l'intervention du soir pour voir un petit peu ce que ça dit. Et alors, je voulais noter, il y avait écrit... attendez, bougez pas, c'est pas là. Je vais le trouver. C'était... voilà. Comment faire pour s'en sortir? C'était des titres d'articles de journaux. Comment ne pas craquer? Il y avait même comment rencontrer quelqu'un alors qu'on tapait juste par en solo. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une plaie. Faut quand même, on n'est pas fait pour être tout seul. Et même à titre, alors celui-là il m'a fait rire, c'est « On peut élever un enfant seul ». Alors j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il nous donnait l'autorisation, c'est possible. Voilà. Bien sûr que c'est possible. Et pourquoi on verrait ça toujours de façon négative, hein. Y a des avantages, il y a des inconvénients. Comme dans le fait d'être parent à deux. Enfin, c'est la même chose. Hein. À ça, évidemment, il s'ajoute aussi la psychanalyse qui dit qu'on comprend mal et qui dit qu'en fait, il faut élever un enfant à deux, il faut un papa et une maman auprès de son enfant parce qu'il faut le triangle. Voilà. On va en reparler après. Je pense que c'est surtout mal compris, en fait. Hein. Mais c'est aussi pour ça que certaines fois, on décrit les familles monoparentales. Donc, la définition de la famille monoparentale, c'est quoi? Alors, je dis monoparentale, c'est pas joli, hein, famille monoparentale, enfin, je sais pas, il n'existe pas famille duo parentale, enfin bon. La définition de l'INSEE, c'est quoi? Pareil, j'ai regardé dans Google, je prépare quand même mes trucs. C'est les personnes seules, veuves, séparées ou divorcées. Une famille monoparentale, c'est des personnes seules, veuves, séparées ou divorcées. Et... quand on part de là, en fait, je trouve qu'on met dans le même sac, on regroupe trop plein de situations, en fait, qui sont complètement différentes. C'est pas du tout la même chose. Et moi, c'est un peu de ça que je voulais partir pour faire un peu ma première intervention, là, de 21 minutes. Et je ne sais pas combien de temps il reste, mais il va me le dire. Et ben moi, je trouve que c'est pas les mêmes situations, j'entends pas les mêmes choses, et ça implique pas les mêmes choses qu'on soit veuf, qu'on soit séparé, qu'on ait fait le choix d'être tout seul, que l'autre soit parti et qu'on le revoie plus, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout les mêmes vécus, ni pour le parent, mais ni pour les enfants non plus. Voilà. Donc on peut pas dire, voilà, élever seul son enfant, c'est pas une grande étiquette. Alors, si on commençait par déjà un truc un peu positif, c'est que quand même, on peut choisir d'élever seul son enfant. Ça existe. Alors avant, on les pointait du doigt, je crois. Enfin, c'est la chanson de Goldman, là. Elle a fait un bébé toute seule. On pointait ces femmes, là, peut-être un peu dans les années 80-90. Ces bonnes femmes qui supportent pas les hommes. La période un peu féministe a tué les hommes. On va élever les enfants toutes seules. Et on les voyait plutôt comme égoïstes, ces femmes-là. Enfin, voilà. J'ai les femmes parce que je pense qu'il y a eu beaucoup... Déjà, c'est compliqué pour un homme de choisir d'élever seul un enfant. Il faut quand même, au bout d'un à un moment ou un autre, en tout cas un ventre. Mais voilà, enfin, ça peut être un choix. Et pourquoi pas parce que moi, je vois quand même des situations où le parent... il trouve beaucoup mieux sa place quand il est tout seul. Je vous donne l'exemple d'un papa que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il est séparé, hein. Mais il me dit, mais maintenant, moi, je trouve toute ma place de papa. Il me dit, avant, je m'effaçais, en fait. Je m'effaçais, je laissais ma femme faire. C'est elle qui gérait tout. C'est elle qui disait le week-end on va faire ça, c'est elle qui gérait les rendez-vous pour le coiffeur, le médecin, machin, tout ça. Et là il est tout seul avec ses enfants et il a vachement plaisir à se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Tiens, je vais les emmener là, tiens, on va faire ça. Et là, il a vraiment l'impression de vraiment d'être papa avec un grand P. et se sent beaucoup mieux que dans ce couple où il était écrasé, peut-être. Voilà, c'était difficile pour lui de trouver sa place de papa. Donc oui, hein, ça peut... On peut se découvrir du coup tout seul, on peut se découvrir plein de capacités. Je pense aux papas qui se découvrent qu'ils peuvent être infirmiers, qu'ils peuvent quand même soigner un bobo. Je pense qu'on peut se découvrir aussi animateur jeunesse pour les week-ends endiablés. D'astite pour suivre les devoirs, là où avant, peut-être facilement, on se dit oh, « non, je ne suis pas capable, c'est toi qui vas gérer. » Voilà, voilà. Bon. Moi, je trouve que ça peut donner des moments... C'est important, je le vois beaucoup, ces situations-là. Ensuite, en deuxième, dans une autre situation, c'est que ça dépend si l'autre est présent ou pas. C'est quand même pas la même chose si le parent il est décédé, malheureusement. S'il est parti, c'est-à-dire en gros qu'il a abandonné la famille, ou s'il est présent, si c'est des parents qui sont séparés et qu'il y a un partage de résidence. Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose d'être parent solo quand on est parent solo 24h sur 24, 365 jours par an, que quand on peut imaginer que la semaine d'après, il va être chez l'autre, ou un week-end, ou de temps en temps. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Moi, je vois des parents vraiment épuisés parce que c'est H24 et qu'il n'y a pas de moment de répit. Et ça, c'est quand même une vraie réalité. C'est que parents solo, ben, on peut pas filer le bébé à l'autre quand il rentre du boulot en disant il a hurlé toute la journée, tiens, tu gères. Moi, je vais prendre un bain. Voilà. Ça, là, non. Ça, on peut pas un moment ou un autre, un moment compter sur l'autre. Donc je vois à quel point pour certains parents ça peut être angoissant quand il y a rupture avec l'autre parent ou même quand les enfants à un moment émettent le souhait de pas forcément aller chez l'autre comme ça arrive des fois à l'adolescence. Le parent c'est pas qu'il veut se débarrasser de ses gosses, c'est qu'il se dit mais j'aurais plus ce temps là pour moi, ce temps un peu de répit. Et je trouve que là-dedans du coup quand on est parent vraiment solo 365 jours dans l'année, je trouve qu'il est important d'avoir des relais, et ça on l'oublie des fois, qu'on peut trouver des relais autour de soi. Je pense en premier lieu aux grands-parents. Les grands-parents, et ça on l'oublie, dans le cadre d'une séparation d'un couple, les grands-parents, eux aussi prennent toute leur place de grands-parents. Ils savent que leur enfant, qui s'est séparé ou divorcé, va sans doute avoir besoin d'eux, et eux aussi c'est l'occasion d'utiliser toute leur place de grands-parents. Ils sont des fois un peu mis de côté, et là c'est l'occasion, et on oublie de leur demander de l'aide. Alors pas tout le temps bien sûr, mais de leur demander de l'aide de temps en temps, ils sont toujours super super contents, ils sont là quand même pour aider. Alors je parle aux grands-parents, mais ça peut être bien évidemment d'autres personnes, les tontons, les tatas, parrain, marraine, voilà, des amis. Et pourquoi pas, quand on est vraiment tout seul, essayer de mettre en place un rituel, un week-end tous les, je sais pas, par mois, tous les deux mois, quelque chose de figé, où l'enfant ou les enfants peuvent se projeter, dire voilà, ce week-end-là, je sais que je vais aller à la campagne chez papy, mamie, j'en sais rien, voilà, mais... Que ce soit clair, et que le parent, du coup, lui, il se dit, bon ben voilà, c'est mon week-end, là, je vais pouvoir faire la grasse matinée, rester en pyjama toute la journée, voilà, faire un truc, pas en profiter pour faire les courses, le ménage, et non, vraiment avoir un temps pour soi. Faut pas hésiter à ces relais-là. Je suis beaucoup de personnes qui se séparent, et je vois que autour, ça remue quand même, les amis, les grands-parents, les frères et sœurs, voilà, ils sont là, ça les remue, ils savent qu'ils peuvent aider. Bien sûr que si on leur demande tous les jours, ça ne va pas du tout, mais ils sont toujours prêts. Au-delà de ce que ça représente, quand on est tout seul, d'avoir un relais, c'est aussi ce qui est important pour l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'identification sexuée. C'est que lorsqu'un parent élève un enfant de sexe opposé, donc une maman qui élève un fils ou un papa qui élève une fille, avoir des relais comme la grand-mère, le grand-père ou le tonton ou la tata, etc., ça permet qu'ils puissent s'identifier à quelqu'un du même sexe qu'eux. Alors, la maman qui élève seule son fils, ben, qu'il aille passer une journée avec son papy à jouer au foot ou à la pêche ou je sais pas quoi, ça lui permet cette identification-là, d'homme à homme. Voilà. Et la petite fille, si elle est toute seule avec son papa, ça lui permet de faire des trucs de petite fille. Parce que voilà, une femme ne va pas forcément jouer à la poupée comme le papa, il essaye de jouer à la poupée. Ou de faire les boutiques quand elles sont plus grandes. Ah, ça permet vraiment ça. C'est important quand même que l'enfant, surtout à l'adolescence, il puisse s'identifier à quelqu'un du même sexe que lui. Quand on est tout seul encore, là, je pense du point de vue de l'enfant, il faut faire attention à ce qu'on appelle le sentiment d'abandon qu'il peut ressentir. Surtout quand l'autre est parti, en fait. Il ne le ressent pas forcément. Ce n'est pas parce que l'autre est parti que l'enfant va forcément ressentir un sentiment d'abandon. Ça, ça dépend. Mais faut faire attention à ce qu'éventuellement, il ne ressente pas ça. Qu'il ne se pose pas la question de « Est-ce qu'il ou elle m'a abandonné ?» en pensant que c'est de sa faute, en fait. Dans ce cas-là, il y a quand même un risque, de colère de l'enfant. Et on se retrouve un peu tout seul avec cette colère. C'est-à-dire qu'il peut exprimer cette colère qu'envers celui qui est là, du coup. Alors, soit il en voudra à celui qui est là, imaginant que c'est de sa faute. Soit c'est parce qu'il ne peut pas se permettre tout simplement d'être en colère contre celui qui n'est pas là. Donc du coup, c'est nous tout seuls en tant que parents où on se reçoit toute cette colère qui ne nous est pas forcément destinée et ce n'est pas forcément très agréable. Il y a aussi le risque que l'enfant se sente... Non, parce qu'ils en parlent dans ce bouquin-là. Le devoir de consoler le parent. Il me reste 5 minutes, c'est vrai ? Ah, mais j'ai rien dit, en fait. J'accélère. Dites donc. Et pourtant, je m'étais entraînée chez moi. Hein. De devoir consoler le parent. Et donc, du coup, de prendre une place un peu d'adulte avec son parent et de plus rester à sa place d'enfant. Il faut faire attention à ça. Bien sûr qu'un enfant peut consoler, peut prendre son parent dans les bras et dire ben, « pleure pas », tout ça. Ce n'est pas la même chose que d'avoir le sentiment qu'il faut qu'il prenne sur lui pour consoler son parent. Et de lui, de ne pas être triste, pour ne pas rendre encore plus triste notre parent. Dans le cadre d'une séparation, ça dépend aussi si on s'entend bien ou si on ne s'entend pas bien. Ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment parent solo si on s'entend relativement bien avec son ex ? Ça arrive, hein. Ça arrive que dans des situations... Je pense que là, si on s'entend bien, il ne faut pas hésiter à prendre aussi l'autre comme un relais, à dire, ben voilà, ce que tu as fait, moi je vais le dire à papa ou à maman. Voilà, si on sait que l'autre va avoir une oreille attentive, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à se dire que malgré tout, on continue d'être coparents, comme on dit, et que ça peut bien se passer. Hein? Des fois on n'ose pas et pourtant il n'y a pas de raison. Par contre, si on est séparé et que la situation peut être encore plus compliquée si en fait on ne s'entend pas et que du coup l'autre soit nous met des bâtons dans les roues, soit peut faire le contraire de l'éducation qu'on donne. Du coup, je trouve que ça peut être encore plus compliqué d'être parent solo dans ces cas-là. Ce qui me semble compliqué, c'est que des fois on peut avoir besoin, quand on est deux, on a ce qu'on appelle le feedback de l'autre. On peut dire bah, qu'est-ce que t'en penses là, cette situation, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le punit, est-ce qu'on le punit pas, comment je réagis, ou alors de dire bah attends, tu crois pas que là t'as un peu exagéré. Quand on est parent solo, on n'a pas ce retour. Du coup, moi, je vois pas mal de parents qui viennent me voir pour un peu se rassurer dans ce qu'ils font. Ça peut être important. On n'a pas forcément... L'éducation, c'est pas un livre d'or. Hein. Il n'y a pas des recettes miracles. Donc, ça peut être difficile. Donc, On peut toujours aller voir un professionnel. Je vois aussi qu'il y a de plus en plus des groupes d'échange de parents solo qui se mettent en place. Je sais qu'il y en a à Saint-Georges. Je ne sais pas ailleurs, mais je sais que ça commence à se développer. Ça peut être intéressant de se rencontrer entre parents solo et voilà, discuter, d'avoir les points de vue des uns et des autres. Surtout s'il y a des mamans et des papas dans le lot, parce que c'est pas mal d'avoir les deux points de vue. Voilà. Donc travailler cette confiance en soi en tant que parent, même si on est tout seul et qu'on n'a pas ce retour, d'avoir confiance en soi et de se dire c'est bon, si je me pose toutes ces questions, c'est que quelque part je suis pas mal. On est pourri quand on se pose pas de questions en fait. Quand on est trop sûr, quand on est certain, c'est pas bon. Faut surtout, moi je trouve que quand les gens viennent me voir et qu'ils sont tout seuls avec leur enfant, il faut surtout profiter de cette période où on est tout seul avec ses enfants. Surtout quand on s'est séparés, parce que ça ne va pas forcément durer. Pas forcément, on peut rencontrer quelqu'un d'autre. Mais au moment d'une séparation, ça peut être, moi j'appelle ça comme ça, un bénéfice secondaire. C'est que certes, on s'est séparés, mais on va peut-être se rapprocher de ses parents. Ses enfants, c'est peut-être pas beau à dire, parce que c'est comme si on était loin, mais encore plus se rapprocher, encore plus se dire, tiens, on va faire des choses ensemble. C'est le moment où, voilà, on les emmène partout. On n'a plus de sous parce que ça coûte une blinde de divorcer, mais c'est pas grave, on les emmène partout. Voilà, au parc, manger une glace, se balader, on fait des soirées pyjama. C'est de voir ça comme une bonne occasion. Et pas toujours comme un handicap parce qu'on est tout seul. On peut être du coup très proche de ses enfants et vraiment apporter un truc positif. Et pas toujours se dire... la semaine dernière, j'avais une maman qui me disait « Mais le premier soir à table, ça va, mais le deuxième soir, on n'a plus rien à se dire. » Ils sont petits, donc c'est vrai que ils sont moins dans la parole qu'un ado peut l'être. Et je dis « Ah bon, mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ? Vous pourriez un peu améliorer l'ordinaire ?» Et elle me dit, il y a quelques jours, on a fait une soirée pyjama. Ben, je dis, voilà, tout le monde était content. Et ça, c'est sympa d'améliorer un peu le truc. Il y a des choses qu'on fait bien avec eux. Peut-être le dernier élément, c'est un truc négatif. Je ne voulais pas terminer sur un truc négatif, mais bon, j'ai plus le temps. Que je vois souvent et que j'ai mis des années à le comprendre, ça. Au départ, je ne comprenais pas du tout ce que... J'avais un parent qui venait me voir et qui me disait « Mais c'est super compliqué à la maison, j'y arrive pas. » Et pourtant, la personne me semblait pas quelqu'un qui se laisse faire, quelqu'un qui posait bien son autorité. Je ne comprenais pas, j'ai mis du temps. Et en fait, je comprends maintenant que quand on est parent solo, il y a un risque, quand il y a plusieurs enfants, en fait, que les enfants se liguent contre parents, parce que c'est l'effet de supériorité numérique. Quand vous avez 2, 3, 4 enfants, et que vous êtes tout seul, en fait, il y a un risque qu'ils fassent groupe contre le parent. Et j'ai des parents comme ça, des mamans ou des papas qui viennent me voir, qui me disent, c'est l'enfer à la maison, j'y arrive pas. Et effectivement, ils font tous groupe, sans se dire le mot, évidemment. Hein. Ils se disent, tiens, on va faire une révolution. Mais c'est vachement dur, parce qu'on est tout seul, et que eux, du coup, voilà. Ils ont ce... et ça peut être plus difficile à mettre en place. Mais ça, on ne voit pas que dans les familles monoparentales. Je l'ai vu, par exemple, avec des mamans de marine militaire qui part longtemps et qui, du coup, se retrouvent, ou même des familles où le papa part la semaine et où ça peut être plus compliqué. C'est pas forcément les familles monoparentales. On a des relations proches avec nos enfants quand on est seul. Il faut juste faire attention à pas placer l'enfant comme un roi dans une relation fusionnelle. C'est peut-être le seul danger que je vois, en fait, des familles monoparentales. Et ça, c'est plutôt quand on a un seul enfant, hein, qu'on est deux. On peut glisser vers l'impression de faire couple avec son enfant, en fait. Et ça peut être beaucoup plus beaucoup plus gênant parce que moi, je vois des adultes qui étaient comme ça, dans une famille comme ça, qui me disent aujourd'hui, moi j'ai tout fait. J'avais tout le temps ma mère sur le dos. J'avais pas 2 minutes tranquille. Là, qui peuvent me dire des choses comme ça. Il faut continuer, même quand on est parent solo, à désirer ailleurs, on dit. En fait, la présence d'un conjoint permet qu'on a notre mari ou notre femme et notre gamin. En gros, on désire ailleurs. On n'aime pas que la même personne. Quand on est tout seul, hop, on a notre trésor, là. Et il ne faut pas qu'il prenne toute la place dans notre tête. Il faut qu'on désire ailleurs. Mais ça, c'est très simple. On désire tous ailleurs. Ça peut être le travail. On aime notre boulot. J'avais une maman qui a élevé tout le temps, parce que le papa était parti très tôt, sa fille, elle, c'était sa vie de femme. Elle avait une vie sociale très développée, elle sortait beaucoup avec ses copines, elle aimait bien aller faire les boutiques toute seule. C'était vraiment ça, c'était sa vie de femme. Elle n'hésitait pas à dire à Sophie, si, moi je te laisse chez Machine, moi ce soir je veux boire un verre avec mes copines, voilà. Bon. Ça peut être une passion, mais juste que l'enfant n'ait pas l'impression qu'il est le centre de notre vie, parce que sinon... il va avoir le sentiment de nous abandonner quand il part. Ou il ne va jamais partir. Il va rester tout le temps à la maison. Parce que ben c'est le centre de notre vie, quoi. Et du coup, difficile.
Merci.
Vous êtes rude, hein.
Je vous ai laissé 30 secondes de plus.
C'est vrai.